Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h20, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de retrouver mon invité en direct et j'accueille ce soir dans ce studio Abdelali Mamoun, imam et théologien. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être là ce soir pour nous permettre d'entendre la parole des musulmans, tellement importante en ce moment. Vous avez écrit Abdelali Mamoun, l'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive. On vous présente comme un imam républicain et aujourd'hui vous êtes surtout, on va l'entendre, un homme en colère. Alors après Charlie Hebdo, vous aviez dit que vous seriez le taille-crayon de Charlie pour l'aider à s'exprimer. 5 ans plus tard, le déni de liberté d'expression conduit donc à un nouveau drame, au cœur duquel on retrouve encore une fois l'islam radical. Ce qui vient de se passer, bien sûr, c'est abominable et c'est terrible aussi pour l'image de l'islam parce qu'il y a forcément des raccourcis.
Bien sûr, il faut que tous les imams montent au créneau, que l'on soit tous solidaires ensemble pour agir, non plus simplement réagir face à le caractère ignoble et monstrueux de ce qui a été commis par ce jeune homme, en plus totalement immature. Bon, que je ne voudrais surtout pas victimiser, il a calculé son coup, il l'a fait avec préméditation, il a été mandaté par une organisation terroriste qui a déclaré la guerre à la France, à son peuple et à ses valeurs. Et donc, nous musulmans de France, nous imams en particulier, devons être sur le front pour combattre par les idées d'abord, puisque nous n'avons pas bien sûr le rôle répressif de combattre ces organisations terroristes sur leur terrain.
Mais alors justement, être sur le front, expliquez-nous, parce que est-ce que ça ne serait pas le rôle justement des représentants musulmans aujourd'hui de dire à l'école, ok, on va vous aider, on va vous tendre la main, et quand un élève viendra remettre en cause la liberté d'expression, quand il refusera d'écouter votre cours ou vous menacera, eh bien appelez-nous, on va venir dans les établissements, on va leur parler à ces élèves, à côté de vous, avec vous, et leur dire que l'islam, ce ne sont pas ces messages qui sont véhiculés dans certaines mosquées ou sur les réseaux sociaux. Ça ne serait pas ça aujourd'hui le rôle des musulmans, des imams en particulier?
Tout d'abord, diffuser et répandre une fatwa. Parce qu'il faut bien rappeler ce que ça veut dire une fatwa. Une fatwa, c'est donner un avis religieux à une question contextuelle. D'abord, ils n'ont pas condamné à mort ou mettre la tête d'une personne à prix, ou c'est-à-dire, voilà. Non, la fatwa, c'est donner un avis religieux. Il n'y a aucune norme juridique qui autorise Mahomet lui-même, le prophète de l'islam, ses compagnons et aucun de ses adeptes jusqu'à la fin des temps à venger le prophète.
Mais est-ce qu'il ne faut pas justement aller le rappeler, ça, dans les écoles?
Il faut d'abord qu'on le dise dans nos mosquées, déjà. Qu'on le dise dans nos institutions. Je rappelle que la plupart de nos enfants, beaucoup d'entre eux, sont inscrits dans des écoles coraniques, équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les églises le catéchisme, et qui transmettent les valeurs de l'islam à leurs élèves. Et donc déjà, commençons par les mosquées, et puis ensuite, si les écoles nous sollicitent, je suis tout à fait prêt, et nous devons tous être les imams prêts à rassurer cet enfant que d'adopter les valeurs républicaines, ça n'est pas trahir ses principes religieux. Ça n'est pas être contre ces valeurs, ça n'est pas hérétique.
Et pourtant, dans un sondage qui avait été fait à l'ouverture de l'occasion du procès des attentats 2015, on a découvert que 74% des musulmans de moins 25 ans font passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République. Ça veut bien dire qu'il faut faire de la pédagogie auprès de ces jeunes.
Mais pour moi déjà, cette question, elle me semble un peu erronée. Si vous posiez la question à un chrétien, est-ce que tu aimes plus Jésus ou Monsieur Macron, il va vous dire, attendez, moi je suis... Il va pas vous dire Macron, sous prétexte qu'il est le représentant de la République, par rapport à Jésus, qui est le représentant de ses convictions chrétiennes. Non, bien sûr que non. Je pense que cette question-là, pour moi, me semble totalement incongrue et n'est pas appropriée dans un sondage.
Alors,
faut dire simplement qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème que d'adopter l'ensemble des valeurs républicaines tout en ayant l'esprit serein d'être dans ses convictions religieuses et que ce sont deux domaines différents. Un relève de la sphère privée, qui est la religion, et un qui relève de la sphère publique, qui est ma citoyenneté et mon devoir républicain.
Alors,
je voudrais mettre une fatwa, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, à tous les musulmans, et en particulier aux jeunes, et les immuniser grâce à cette fatwa, en leur disant qu'il n'y a pas de texte qui autorise un musulman à venger Mohammed. Dans le Coran, il est clair. Verset 194, sourate 15, et j'en passais des meilleurs. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Il n'a jamais été autorisé, le prophète, à venger sa personne, car je rappelle que cette question-là n'est pas conjecturale et n'est pas une réalité nouvelle.
On vous entend, mais ce n'est pas facile pour les jeunes qui sont très influençables, on le sait, de faire la différence entre les bons et les mauvais imams, si vous me passez l'expression. Le ménage, il doit être fait en amont. Est-ce que vous trouvez que l'État prend des mesures suffisantes?
Je suis désolé, tous les mauvais imams ne doivent pas rester imams. C'est tout simple. Celui qui n'est pas dans cette logique de mettre l'islam au service des valeurs républicaines et au service de la nation française et de sa population n'a rien à faire sur un minbar à gérer une mosquée. Il doit être purement et simplement remplacé et pas, bien sûr, fermé, la mosquée. Moi, je suis opposé totalement à la fermeture des mosquées. Quand dans un hôpital, un médecin commet une erreur médicale, on ne ferme pas l'hôpital. On le remplace.
On remplace l'imam, voilà, on le tout. Forme en France.
Il faut effectivement former les imams en France. Il faut se donner les moyens de le faire. Parce que le souci de cette question, ce n'est pas les compétences humaines pour le faire. C'est les moyens financiers. Parce que assurer l'enseignement de la religion à des imams ou d'autres matières nécessaires à réaliser sa vocation dans les mosquées, comme le fait les curés dans les séminaires, eh bien, ça demande de l'argent, du temps et de l'investissement.
Qu'est-ce qu'on fait de ces imams, du coup? De ces mauvais imams, entre guillemets.
Il faut les virer, tout simplement. Ils sont virés.
Il faut faire quoi ?
Il faut tout simplement d'abord les mettre hors d'état de nuire dans leur mosquée respective. Sinon, c'est la mosquée qui est sanctionnée, tout simplement. À partir du moment où ils sont en dehors, surveiller ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur. Est-ce qu'ils deviennent des prédateurs ou est-ce qu'ils se rangent bien dans les rangs à ne pas être l'ennemi de la République ? Si c'est le cas, nous réagissons immédiatement à partir du moment où il devient un prêcheur de la haine, un prêcheur de la
violence. Vous avez confiance,
vous
pensez que le gouvernement a pris les mesures, a pris l'ampleur du problème et qu'il va prendre les mesures nécessaires?
J'espère, en tout cas j'espère, ça fait déjà pas mal d'années que nous attendons des véritables mesures et non pas des réactions spontanées qui ne seront que des messages adressés à la population, donc forcément... Il y a de la politique derrière, politicienne, qui ne résout aucun problème. Ce qu'il faut, c'est véritablement des mesures concrètes, c'est-à-dire redonner aux musulmans de France l'autodétermination de la gestion de leur religion qui serait exclusivement au service de la nation française et non pas comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'État aujourd'hui a décidé de confier cette gestion aux ambassades et aux consulats. C'est un islam consulaire ou islamiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de nous dire soit vous êtes islamiste, soit vous êtes avec votre pays d'origine, la Turquie. Je rappelle, c'est quoi la Turquie aujourd'hui?
Oui.
Je rappelle, c'est un sultan ottoman qui est aujourd'hui au pouvoir en Turquie. Au Pakistan, ce sont des lobbies islamistes qui font pression sur le gouvernement pour dire... justement à leurs concitoyens en France, il faut aller plus loin que de dénoncer. Il faut agir contre ceux qui profanent.
Merci beaucoup.
C'est totalement inadmissible.
Merci beaucoup à vous, madame. Merci à Mahmoud d'avoir apporté votre témoignage ce soir en direct sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et il est l'heure de retrouver Christophe Lamarre pour le rappel des titres.
L'hommage national à Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, sera rendu mercredi en fin d'après-midi à la Sorbonne. Édition spéciale demain soir sur Europe 1. 15 personnes, dont 4 collégiens, en garde à vue ce soir dans l'enquête sur l'assassinat du professeur. Les enquêteurs cherchent à déterminer les responsabilités des uns et des autres. Emmanuel Macron reçoit le président du Conseil français du culte musulman. Le chef de l'État se dit déterminé à lutter contre l'islam radical. La peur doit changer de camp, dit-il. L'épidémie de coronavirus en France. 1900 patients atteints de Covid sont en réanimation. Et cette information du service politique d'Europe 1, selon l'entourage du Premier ministre, une deuxième phase de couvre-feu est dans les cartons en cas de dégradation de la situation sanitaire. Le coronavirus qui menace de remettre une grande partie de l'Europe à l'arrêt. Le pays de Galles va reconfiner sa population à partir de vendredi, durée 2 semaines. La Belgique instaure le couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin. Les cafés et les restaurants resteront fermés jusqu'au 19 novembre. Un espoir à Béthune. Le gouvernement se dit prêt à sauver l'usine Bridgestone. Il vient de remettre une proposition aux manufacturiers japonais. Son scénario permettrait de sauver entre 460 et 560 emplois. Les sports, coup dur, très dur même pour le PSG et l'équipe de France de handball. Nicolas Karabatic va devoir être opéré d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Il sera indisponible plusieurs mois, au moins 6, disent les spécialistes, convalescence comprise.
Merci Christophe Lamarre. Et l'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne, ce sera mercredi hein, et non pas demain. Et nous serons évidemment en direct pour une édition spéciale. Mercredi, l'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Tout de suite, c'est la météo. Les météos avec vous, Anissa Haddadi, avec un temps qui sera plus agité hein, demain.
Oui, à cause d'une perturbation, Isabelle. Cette perturbation qui touche la moitié ouest du pays dès demain matin. Des frontières belges jusqu'à l'Occitanie en passant par la région parisienne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Dans toutes ces régions, le ciel sera couvert avec des averses demain matin. Attention au vent de sud-sud-est qui souffle sur une grande partie du pays. Nous attendons des vents tempétueux demain sur les Pyrénées jusqu'à 130 km/h. Ça souffle fort également dans le golfe du Lion, la vallée du Rhône et les côtes de la Manche. Sur les frontières de l'Est, il fait beau. De l'Alsace à la Côte d'Azur, grand soleil demain. Au meilleur de la journée, comptez 14 à 22 degrés. 14 du côté de Charleville-Mézières, 15 à Paris et 22 la maximale pour Biarritz.
Merci Anissa, à tout à l'heure 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, votre débat des grandes voix sur Europe 1. Pas une minute de répit pour les ennemis de la République, a dit ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. A tout de suite.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h35, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure du débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir, bienvenue à tous les deux.
Bonsoir.
Pas une minute de répit pour les ennemis de la République.
Pas une minute de répit pour les ennemis de la République. C'était ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avec Sonia Mabrouk. La peur va changer de camp, promet quant à lui Emmanuel Macron. À partir de ce soir, les islamistes ne dormiront plus tranquilles en France, a-t-il dit à l'issue du Conseil de défense. Alors je voudrais qu'on parle ensemble, messieurs, de la réponse de l'exécutif au drame de vendredi. Est-ce que selon vous, d'après ce qu'on a pu entendre en tout cas ce matin sur Europe 1, on est dans l'incantation ou dans la prise de conscience qui va enfin vraiment conduire cette fois à des actes?
Moi, je pense que Gérard cette Carreau. Fois-ci, alors peut-être vais-je être démenti par les prochaines semaines, mais je pense que cette fois-ci, le président de la République a vraiment pris mesuré l'ampleur de ce qui s'est passé. Il l'avait déjà anticipé en partie, et d'où le discours qu'il a fait sur le séparatisme. Mais là, je crois que c'est la, comment dire, j'ose pas dire la goutte d'eau par rapport à l'horreur de ce qui s'est passé, mais c'est le fait décisif. Je crois que à partir de ce qui s'est passé, le président de la République maintenant sait qu'il ne peut plus esquiver des mesures extrêmement fortes. Darmanin, à juste titre, c'était plutôt positif ce matin, assure Europe à développer déjà les premières mesures, mais bien évidemment, même si on les mettait en marche rapidement, les expulsions et tout ce qu'il
on
a annoncé.
On va revenir sur les mesures, oui.
Alors,
oui.
Tout ça, ça ne suffit pas. Il faut maintenant une démarche qui ne s'arrêtera plus et qui soit une démarche, d'ailleurs le mot a été prononcé, d'éradication de l'islamisme radical. Éradication. Et puis on a dit « no passaran ». Enfin, on a dit « no passaran », vous savez ce que ça voulait dire. Pendant la guerre d'Espagne, ça voulait dire « ils ne passeront pas ».
Cinquième c'était, colonne
oui,
aussi.
C'était, tout ça, c'est inspiré de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'était ça. Mais « no passaran », ils sont quand même passés. Mm. Hein, parce que c'est les républicains qu'on dit ça, puis les franquistes sont passés. En ce qui concerne les radicaux islamistes, je crains qu'il ne soit déjà largement passé.
Alors, c'est encore un autre débat. Charles Villeneuve, vous êtes d'accord avec Gérard Carrérou? Le président de la République a pris conscience vraiment de l'ampleur et cette fois, il est obligé de sortir, entre guillemets, l'arme lourde.
Moi, je crois que le président de la République a pris conscience de jouer sa crédibilité et une partie de sa réélection en 2022. On s'est attaqué, si vous voulez, il y a un double symbole. Il y a le symbole de la liberté d'expression en décapitant ce malheureux professeur d'histoire géo, et puis aussi le symbole, si vous voulez, de ce qu'est le cœur de l'enseignement républicain, c'est-à-dire l'école. Et à partir de là, il ne peut pas, si vous voulez, pour choisir le mot que vous avez choisi en posant la question, incantation ou prise conscience de la réalité. Incantation, je ne le crois pas, parce que simplement, la question, et c'est pour moi la principale, si vous voulez, question qui demeure, quel est le degré de profondeur de l'entrisme de l'islam politique dans l'éducation nationale et même dans les médias et dans la classe politique aussi? Est-ce que petit à petit, notamment dans l'éducation nationale, les professeurs ne vont pas être amenés à s'auto-censurer? Parce que
c'est toute
moi,
la question.
Je les comprends.
Certains le font déjà,
mais
ils le disent.
Sûr, hein. Vous savez très bien qu'on a des problèmes même pour enseigner Madame Bovary, qui est prise pour une prostituée, qui est trop légère, pour enseigner d'autres, notamment des pans d'histoire. Je ne parle pas de la colonisation, mais simplement de simples faits historiques, évidemment, sur les Gaulois, sur Clovis, sur le vase de Soissons, etc. Quand vous discutez avec les professeurs, c'est ça. Alors on me dit, on va expulser. Bon, très bien, sauf qu'on voit très bien que l'un des principaux animateurs de cette affaire d'un imam autoproclamé, si vous voulez, Sifraoui, là, lui-même, on a essayé de l'expulser, mais on ne peut pas, parce que l'arsenal juridique ne le prévoit pas.
Alors c'est ça, est-ce qu'il va falloir changer l'arsenal juridique ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, moi je crois qu'il y a tout dans l'arsenal juridique. N'oubliez pas que depuis 2015, on a intégré dans le droit positif, c'est-à-dire le droit courant, tous les décrets qui avaient été pendus après le massacre de 2015, dans le cadre de l'état d'urgence. Donc
on n'a pas besoin de régime d'exception. L'état de droit suffit
je ne crois pas
répondre à cette barbarie
absolument.
Aujourd'hui en
il
l'état actuel.
Il suffit d'appliquer la loi, il suffit que les magistrats s'y mettent aussi, je crois qu'ils s'y mettront aussi, parce qu'ils sont tout aussi parfaitement conscients de la même manière que l'exécutif politique l'est.
On poursuit ce débat, messieurs, dans un tout petit instant sur Europe 1. C'est la suite de votre débat des grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Il est 18h41 et c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et je ne sais pas, messieurs, si vous avez pu écouter mon invité tout à l'heure à 18h20, l'imam Abdelali Mamoun, qui disait des choses très intéressantes, et notamment ceci.
Nous, musulmans de France, nous, imams en particulier, devons être sur le front pour combattre par les idées d'abord.
C'est avec les idées qu'on doit combattre, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou.
Alors écoutez, le rôle des musulmans est très important, et notamment des imams, parce qu'ils ont une audience, indéniablement. Mais il ne faut pas oublier que, comme la plupart des religions, les musulmans sont très divisés. Et ils sont soumis aussi, il n'y a pas un seul président de la République qui a réussi, finalement, à les réunir pour de la même manière, si vous voulez, que la communauté juive à travers le CRIF, qui est leur organisation, pour en faire l'islam de France. C'est parce qu'ils sont soumis aussi, pas seulement à leur propre division, et c'est vrai dans tous les pays musulmans, tous les pays arabes, mais aussi aux influences étrangères. Il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, la grande mosquée de Paris est aux mains plutôt des Algériens qui y contribuent financièrement. Et pour nommer le recteur de la mosquée de Paris, il faut le feu vert d'Alger.
Bon. On avait cru comprendre dans le projet de loi sur le séparatisme que ça allait changer tout ça, que la France allait reprendre la main, que les mosquées ne seraient plus financées par des pays étrangers.
Oui, mais on n'a pas encore le... Oui.
D'abord, on l'a pas encore. Pour l'instant.
Et il sera probablement durci par rapport à ce qui était prévu au départ, étant donné la situation. Mais sur les musulmans, bon, actuellement, les musulmans, effectivement, c'est un gros point d'interrogation. Il y a des millions de Français musulmans qui sont là depuis plusieurs générations pour certains, ou plus récemment pour les plus jeunes. Ces gens, comment réagissent-ils ? On a du mal à le savoir. On a eu des sondages qui sont assez effrayants, quand on voit qu'une grosse partie d'entre eux a tendance à considérer la loi islamique au-dessus de la loi de la République.
En tout cas, leur conviction religieuse avant les valeurs de la République.
Mais ce qui va compter, c'est ce qu'on va convaincre. Vous savez, la théorie des minorités agissantes, aujourd'hui, les minorités agissantes dans l'islam de France, ce sont les minorités islamistes radicales. C'est eux qui mobilisent.
C'est une idéologie politique.
C'est une idéologie. Voilà. Et les autres, la grande masse de ceux qui voudraient simplement vivre et travailler tranquillement, élever leurs enfants en famille. Et il y en a beaucoup, mais ils ont un peu tendance aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de la peur, à fermer leur bouche et à laisser la minorité agissante. Donc, tout ce qui va être fait aujourd'hui et annoncé par le gouvernement n'aura l'adhésion de cette population que si véritablement elle est convaincue que cette fois-ci, on ne laissera plus la minorité agissante les gouverner.
Est-ce que le gouvernement a raison dans sa stratégie de vouloir faire confiance au Conseil français du culte musulman de créer un islam de France compatible avec la République ?
Oui, de toute façon, il faut poursuivre cette politique et cet effort. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans l'interview accordée à Europe 1 par le ministre de l'Intérieur, à Sonia Mabrouk Darmanin, c'est quand il a parlé des expulsions sur les 4000 et quelques, si vous voulez, de fichiers S et dont il pense pouvoir expulser au moins 3000 qui ont une nationalité étrangère.
Ceux qui purgent actuellement une peine et qui pourront être expulsés
C'est les moyens de pression. Et il a dit, à un moment donné, qu'il ferait des voyages, qu'il se rendrait dans les pays d'Afrique du Nord, qui fournit les trois pays d'Afrique du Nord, mais pas seulement, mais qui fournissent le principal contingent, si vous voulez, des musulmans en France, en tout cas de ceux qui ne sont pas français, puisque beaucoup sont français, il ne faut pas l'oublier, et que beaucoup aussi sont intégrés. Hein, on l'a vu, notamment la une du Figaro Magazine dernièrement, avec cinq femmes françaises, musulmanes, qui sont parfaitement intégrées. Donc l'intégration, il faut poursuivre cette politique aussi, il ne faut pas l'oublier. Et simplement, je voulais parler du déplacement dans les trois pays, oui. parce qu'il ira là-bas pour convaincre ces pays d'accueillir les expulsés. Mais comment ? Mais il a un argument fort dont il
Quelle
n'a pas parlé.
Quelle est la contrepartie ?
Et là, ben d'abord, il a la politique des visas. Il peut restreindre de manière considérable la politique des visas. Et c'est un moyen de pression sur ces pays, sur ces équivalents, les ministres de l'Intérieur, très important.
C'est quand même terrible qu'on en arrive là.
Mais oui, mais c'est un rapport de force.
Si
l'instant, on n'en est pas au rapport d'intelligence, si vous voulez.
Puis Gérald Darmanin a aussi parlé de ceux qui ne peuvent pas être expulsés parce que venant de pays comme la Syrie, la Libye...
Prenez l'Algérie, parce que c'est le plus dur. Le Maroc, c'est le plus facile. La Tunisie peut être relativement aussi. Prenez l'Algérie. Ça ne peut être qu'un rapport de force. D'ailleurs, depuis la fin de la guerre d'Algérie, nos rapports ont toujours été marqués par un rapport de force. Et là, on leur dira éventuellement, si M. Darmanin leur dit « on va vous expulser quelques centaines d'Algériens pour telle et telle raison », ils n'en voudront pas, sauf s'il y a des contreparties, ou si on leur dit « dans ces conditions, effectivement, on ne vous permettra plus de faire le même regroupement familial, on ne vous donnera plus les mêmes visas et ainsi de suite », c'est-à-dire la menace. Mais on ne s'en sort. C'est un rapport de force, la politique internationale. Or là, ce n'est plus seulement de la politique nationale, c'est de la politique internationale.
Rapport de force assumé ce matin sur Europe 1, on le rappelle, par le ministre de l'Intérieur. On poursuit ce débat passionnant avec vous, messieurs, dans un tout petit instant sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Il est 18h50 et c'est la suite du débat des grandes voix en direct sur Europe 1 avec toujours Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Et on parle ce soir de la réponse de l'exécutif après le drame de Conflans et bien sûr également les réactions politiques. Et à ce propos, on a vu apparaître ce week-end les premières polémiques sur le supposé laxisme de la gauche envers l'islamisme radical. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de représentants du PS, des écolos, de la France insoumise, notamment dans les manifestations ce week-end. Messieurs, la gauche a-t-elle été complaisante avec l'islamisme ?
Mais c'est indécent d'avoir vu monsieur... Honnêtement, c'est totalement indécent d'avoir vu M. Mélenchon. Quand j'ai vu M. Mélenchon à la manifestation de la République, je me suis dit, mais quel culot ! Les mêmes, lui et ses lieutenants, les mêmes qui étaient il n'y a pas longtemps encore à la manifestation effectivement organisée par le comité contre l'islamophobie, qui, cette fameuse manifestation où on voyait des étoiles jaunes hein, qui faisaient... pour nous dire que la France d'aujourd'hui, c'était comme, comme les nazis d'il y a 50 ans, enfin un peu plus, 70 ans. Et que, dans cette manifestation où on a crié « Allah Akbar » sans que personne ne dise « je me retire de manifestation » où on crie le cri de guerre des djihadistes et des assassins islamistes, eh bien je trouve culotté de la part de Mélenchon. Et je pense que les électeurs ne seront pas dupes, que les électeurs de la France insoumise ne seront pas dupes, puisqu'il sera à nouveau candidat à l'élection présidentielle.
Alors, c'est vrai
Manuel Valls, il a eu raison de cibler Jean-Luc Mélenchon, Charles Villeneuve ?
Écoutez, il y a Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui a montré une certaine duplicité dans cette affaire, mais il y a aussi d'autres députés de la France insoumise qui ne se sont pas rendus auprès de l'organisation, vous savez, anti-islamophobe, le CCIF, qui est appelé peut-être à être dissous, en tout cas qui verra peut-être ses subventions retirées par l'État, ce qu'a menacé d'ailleurs ce matin le ministre de l'Intérieur. Mais des députés comme Quatennens, comme Corbière, sont profondément républicains et ne se sont pas joints, si vous voulez, à ce type de manifestation. Il ne faut pas l'oublier, si vous voulez. Mais ça a fait apparaître d'ailleurs, en tout cas, la manifestation. Il ne faut pas oublier qu'on a vu beaucoup de gens de gauche, en effet, parce qu'on touche au cœur de cible de la gauche. C'est le corps enseignant qui a été touché. Et c'est quand même la clientèle de base du Parti socialiste, notamment.
On a la représentante de l'UNEF qui a été sifflée hier sur la place de la République
oui,
à Paris. Hein.
Bien sûr, parce qu'il y a...
Qui a été traité de collabo.
Il y a un certain islamo-gauchisme, expression, si vous voulez, qui est délicate à utiliser tout le temps, systématiquement. Il faut faire attention. Mais ça fait apparaître les deux gauches, si vous voulez, c'est-à-dire d'une part celle de François Hollande, de Bernard Cazeneuve, qui lui justement a dénoncé un certain nombre de comportements des collectivités locales, de droite ou de gauche, qui facilitent par des subventions et par des facilités fiscales des associations qui sont islamistes. Tout ça pour acheter la paix sociale. Il ne faut pas l'oublier aussi, il y a une duplicité qui touche un certain nombre de partis politiques, pas seulement, si vous voulez, de gauche, sur le plan des collectivités locales. Je ne parle pas, si vous voulez, de l'État. Bon, et c'est vrai que là où je trouve que c'est beaucoup plus difficile, même s'il y a pas mal de notamment Mme Le Pen qui a réclamé une législation de guerre. Et pour la droite dite républicaine, c'est plus difficile parce que...
Alors la droite républicaine, justement, puisque vous me tendez la perche, je voudrais qu'on écoute ensemble Gérard Larcher, le président du Sénat, qui n'a pas mâché ses mots cet après-midi.
La République est en danger comme elle l'a rarement été. Par notre absence de courage collectif qui nous conduit à ce drame. J'entends que nous serions à un tournant. Quel est donc ce tournant? Tuer les enfants à Toulouse, n'était-ce pas un tournant? Assassiner des journalistes, n'était-ce pas un tournant? Égorger un prêtre dans son église, tuer un policier et sa conjointe. À chaque fois, on a dit que c'était un tournant. En fait, de tournant en tournant, est-ce que nous ne tournons pas sur nous-mêmes? Le présent ressemble tellement à ce passé. Là encore, déclaration, mobilisation, engagement. Il faut agir et il est déjà tard.
Absence de courage collectif, dit Gérard Larcher. Finalement, c'est ce que vous disiez en tout début d'émission, Gérard Carrément.
Oui, et puis alors il manque aux Républicains, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup entendu les Républicains. Mais les Républicains, il y a
déjà un ancien... Pourquoi est-ce qu'on les a si peu entendus? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait que Valérie Pécresse dans la manifestation
oui,
de la République
les...
hier
En fait, le problème des Républicains est toujours le même. Ils n'ont pas véritablement une grande voix qui préfigurerait leur candidat à la présidentielle. Et du coup, et en plus, ils sont un peu gênés aux entournures quand Darmanin parle au nom du gouvernement, alors que Darmanin était républicain et était sarkozyste il n'y a pas longtemps. Donc il y a une gêne. Mais par contre, ce qui m'a frappé, c'est que Mme Le Pen, qui a tenu un discours, où elle n'était pas, agressive à l'égard de l'exécutif. Elle a même accordé 2 ou 3 satisfecit sur certains points. Et à mon avis, elle a fait un discours de type Rassemblement National prêt au gouvernement. C'était intéressant parce que d'habitude, elle est un petit peu...
Inattendue de sa part, vous voulez dire?
Oui, parce qu'elle est souvent dans l'outrance quand il s'agit de ces sujets qui sont des sujets extrêmement sensibles et sulfureux. Pour elle, eh bien, là, j'ai trouvé qu'elle avait un discours modéré. Je veux dire par là que le président de la République a eu une opportunité de rassembler à cette occasion beaucoup de monde. Je ne dis pas unité nationale.
Les Républicains des deux rives, pour paraphraser ce qu'avait dit un jour Jean-Pierre Chevènement.
Une adhésion importante de la population française, parce qu'il y a au moins 70% des Français qui en ont marre du laxisme à l'égard des problèmes, qui ne veulent pas aller pleurnicher ou aller mettre des bougies toutes les semaines pendant 6 mois.
Moi, j'ai trouvé que le président du Sénat a mis, si vous voulez, le doigt sur quelque chose qui peut être reproché, justement, à Emmanuel Macron, c'est d'avoir attendu toute cette série d'assassinats, à commencer par le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, le Pakistanais dernièrement contre des journalistes,
l'horreur qui monte en garde, entre guillemets. Pour...
Et c'est en cela que cette affaire, notamment de la décapitation de ce malheureux professeur d'histoire géo, est une bombe à retardement qui arrive tout au bout d'une série, si vous voulez, de dérapages, de meurtres et d'assassinats, et qui posera problème au chef de l'État.
Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous.
C'est pour ça que je ne crois pas à l'incantation, mais plutôt à l'action.
Merci messieurs, merci à vous les grandes voix. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on vous retrouve dès demain sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et nous on se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h de Christophe Lamarre. Et puis on ouvrira comme tous les soirs le Club des idées. Grand débat ce soir autour de l'école de la République, encore une fois touchée au cœur par le drame de vendredi. À tout de suite.